Hommage à ce jeu de cartes, communément appelé trou de cul.
Passez à mon bureau, je vous prie.
Eh bien, c'est la première fois que la présidente d'IKEA m'invite à son bureau.
Monsieur Machin, on vous remercie.
Quoi? Dites-moi pas, j'ai encore le trou de cul.
On dirait bien, profitez-en, vous avez encore la santé.
Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour, ça tombera peut-être sur vous.
Ça m'étonnerait. Pour les combines, je suis un as. En attendant, je me la coule douce sur mon yacht.
Il suffit d'un coup de chance dans le grand jeu de la vie. Il suffit d'une main pleine.
Le système m'avantage. J'ai des atouts dans ma manche dès le début.
Je préfère être un trou de cul qu'un deux de pique.
Parfait. Vous avez carte blanche pour sortir de mon bureau.
Te réveille en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer. Toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du 9 novembre 2009 de votre magazine ludique hebdomadaire Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Mais vous pouvez également nous entendre sur Internet avec notre site Internet qui est le www.puissancemaximale.com. Également sur les ondes de Radio Taïga et Radio Anticosti. Et François, nous sommes également, je te salue François en passant.
Salut Vincent.
Et bienvenue à l'émission, merci d'être là. On peut également être, on est entendu également en Europe.
À Abandonware France, la web radio.
Eh oui, on salue justement nos amis français et même nos amis belges.
Faut pas les oublier maintenant.
Ben oui, que j'ai rencontré un ami belge qui nous écoute de façon assidue.
À la Fiesta Ludique.
Oui, à la Fiesta Ludique en fin de semaine, on pourra s'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Je salue également autour de la table nos chroniqueurs qui sont également présents. Guillaume Forand.
Salut Vincent.
Salut Guillaume. Également, nous avons Raymond Poirier qui vient faire sa deuxième chronique.
Bonjour.
Bonjour. Alors, messieurs, un tour de table pour débuter juste avant la petite chanson.
Oui, donc moi aujourd'hui, je vais parler d'un jeu qui est là depuis quelques années, Donjon Dragon en ligne, et qui a monté de niveau récemment et qui a des nouveautés dessus.
Excellent. Raymond?
Ben nous, on va parler des sites à usage unique sur Internet.
Excellent. Moi, de mon côté, on va avoir des petites capsules que j'ai fait en fin de semaine à la Fiesta Ludique, des entrevues avec une entrevue en particulier avec Nicolas Beauseret. Vous allez le découvrir dans quelques instants.
Et on va avoir aussi, évidemment, l'actualité ludique.
Excellent. Alors, on passe en chanson.
On va aller écouter une pièce du nouvel album des Trois Accords. Ça s'appelle, c'est la pièce titre de l'album. Ça s'appelle Dans mon corps. C'est une pièce qui met en doute l'orientation, le sexe, le gendre des gens qui ont fait la pièce. Donc, voilà un thème, un nouveau thème de l'album des Trois Accords. Et c'est toujours dans l'absurde. Vous êtes à puissance maximale.
Toi. J'étais fatigué d'être seul et que tu ne me voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Bordel, me prépare en tout cas où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je noue les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Les grands phénomènes du web. Expliqué par Dr. Raymond Poirier.
De retour à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA, et c'est très bien introduit, c'est Raymond Poirier qui est ici pour la chronique des grands phénomènes du web.
Et cette semaine, on s'intéresse à un phénomène qui est assez décapant dans l'Internet actuel, dans la mesure où de plus en plus, avec des plateformes comme Yahoo, Google et le reste, on essaie de faire de plus en plus de choses. Je veux dire, Google nous parle même de répertorier la génomique humaine au grand complet. Alors, dans une période d'expansion, on voit tout de même une popularité quand même assez marquée pour une diminution de l'offre de services des sites Internet. Et donc, actuellement, et depuis les dernières années, on observe une tendance marquée vers la création de sites web à usage unique. Donc, des sites qui, généralement, ne servent à rien de particulier. Des fois, ont une utilité très, très marquée également. Mais cette utilité-là n'est que dans un seul sens, dans une seule optique. Il y en a qui peuvent être extrêmement pratiques, il faut le dire, notamment needumbrellatoday.com qui essentiellement nous dit, ben, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas, est-ce que j'aurais besoin d'amener mon parapluie? Il y en a d'autres qui peuvent nous permettre d'ailleurs de définir un peu mieux l'état du monde actuel. Est-ce que les États-Unis sont en guerre, par exemple, ou est-ce que c'est Noël? Isitchristmas.com? Donc, généralement, ça nous permet de nous situer dans l'année, d'autres qui nous situent carrément dans la semaine.
Donc, des sites web avec une seule fonction.
Voilà, une seule fonction pour ces sites Internet. Là.
Est-ce qu'on pourrait parler de sites web minimalistes?
Pratiquement, dans certains cas, des sites web assez minimalistes, mais qui sont quand même chargés de surprises. Ce qui explique d'ailleurs la tendance actuelle à, disons, le développement marqué de ces sites-là, on pourrait l'associer à l'élection présidentielle américaine. Parce que en 2007, je crois...
Il n'y a pas dire que Barack Obama, il a fait un site à usage unique?
Il y a quelqu'un qui a fait un site à usage unique pour Barack Obama. Ça s'appelait barackobamaisyournewbicycle.com. Et essentiellement, l'idée du site, c'est qu'on ouvre le site et qu'il y a une phrase qui nous dit « Barack Obama is... » quelque chose. Et donc, c'est plein de surprises, c'est chargé d'étonnement. Et donc, nécessairement, voulant surprendre des amis, des voisins, des camarades, les gens ont diffusé très rapidement cette adresse-là. Ça a amené d'ailleurs plein de variables avec un peu tout le monde du monde politique américain et ailleurs. Il y a Hillary Clinton is your new bicycle, Ron Paul is your new bicycle. Et d'ailleurs, les principaux chercheurs scientifiques du web ont associé à la montée en popularité de Barack Obama is your new bicycle la paternité peut-être de cette vague marquée qu'on connaît depuis 2007. Parce qu'en fait, essentiellement, au début des années 90, fin 90, début 2000, il y avait peu de sites à usage unique. On parle peut-être de 3 à 5 qui apparaissaient à chaque année. À partir de 2006, on avait répertorié 31 sites à usage unique globalement sur l'ensemble de la toile. Mais en 2007, on était passé à 61. En 2008, 130. Et actuellement, on dépasse même le cap des 200.
Et c'est souvent des sites qui sont, en fait, de l'humour absurde, en fait.
C'est de l'humour absurde. Il y a quelque chose d'assez drôle, effectivement, dans certains sites. Mais encore là, il y a l'idée de surprise. Je parlais de Barack Obama's Your New Bicycles. Il y en a d'autres qui sont un peu plus simples. SometimesRedSometimesBlue.com, où essentiellement, on load le site et il est bleu. Et d'autres fois, on load le site et il est rouge. Moi, je dois vous dire, j'ai passé des heures de plaisir à essayer de voir, va-t-il être bleu? Ah, va-t-il être rouge?
Ou sera-t-il mauve? Un mélange des deux.
Ben, il y a purple aussi.
Ah,
il y a un autre site qui c'est purple.com où là c'est simplement mauve. voilà.
On peut pas se tromper. On a moins de surprises là par exemple.
Mais tu m'attristes un peu François G dans la mesure où tu amènes un peu l'humour là-dedans parce que il y a aussi beaucoup d'émotions. Et notamment le premier site qui avait été créé, le premier site à usage unique en 1998, qui était un hommage touchant à Hampton Hamster. Je vous invite à écouter l'audio de ce site Hamster Dance.
En fait, ça faisait penser à Crazy Frog.
Peut-être
une paternité non assumée. Là.
Mais honnêtement, je me sens mal de rire de ce site puisque ça a été créé en août 98 par une Canadienne, Deirdre Lacarte, qui décidément a agi comme pionnière sur le net. Et c'était un hommage à son hamster qui était décédé. Alors, on a créé un site avec cette musique entraînante, engageante. Et on voit, dans le fond, Madame Lacarte qui a réussi à transférer l'énergie négative qui est associée à la perte d'un être cher et aller chercher un site qui a amené le sourire sur bien des visages et ce pendant quand même plus d'une décennie puisque ce site est encore partiellement actif. Ça a été donc le premier site qui est devenu à usage unique. Peut-être justement l'aspect positif, la vision de Hamster qui danse a facilité peut-être la diffusion de tout ça. Et parallèlement, l'autre site qui a servi peut-être de pionnier dans le développement de l'usage unique, bon oui, Hamster Dance qui est peut-être un peu le grand-père, le pape des sites à usage unique. mais en parallèle, il y a aussi un classique que vous reconnaîtrez sûrement.
C'est lequel, Zambo?
You're the man now, dog.
You're the man now, dog. Man now, dog. Man now, dog.
Alors ça, si je me trompe pas, c'est un lutteur qui dit ça, non?
Non, c'est Sean Connery dans le film Finding Forrester qui dit cette phrase désormais célèbre « You're the man now, dog ». Alors c'est une phrase, bien entendu, qui a été placée là, qui est extrêmement inspirante. Je veux dire, on va sur ce portail-là, on voit des images de Sean Connery, l'air un peu violent, le doigt pointé vers nous. Et ça nous inspire, on dit « Ben, c'est nous l'homme maintenant, chien! »
C'est vrai qu'on est au travail, ça peut nous inspirer, si on est pour négocier son salaire avec son patron.
Exactement.
On va là-dessus, sur ce site à usage unique-là. You're the man, et voilà.
On apprend une petite phrase et on est prêt justement à affronter son patron.
Et ça, ça a été créé en 2001. En fait, yourthemannowdog.com, c'est Max Goldberg qui a créé ça. Et ça a été d'ailleurs à ce point populaire qu'il y a toute une communauté de sites qui a été développée autour de ça. La communauté YTMND. Alors, qui est devenu extrêmement populaire et qui s'est placé comme un joueur majeur, je pense, dans le développement des courants Internet actuels. Alors, un site extrêmement inspirant. On parlait tout à l'heure, cela dit, d'humour absurde. Moi, un de mes préférés, on a cassé un peu mon punch, mais c'est Zumbo.com. Il est tellement délicieux. Quand je parle encore là d'éléments positifs, on se motive. On va chercher de la motivation, on va chercher de la confiance et il n'y a pas de site qui nous motive à ce que tout soit possible dans l'univers.
La méditation
Zumbo.com, pratiquement.
Welcome to ZumboCom. This is ZumboCom. Welcome. This is ZumboCom. Welcome to ZumboCom. You can do anything at ZomboCon.
Tout est possible. Tout est possible à ZomboCon. Et ça fait longtemps, lui aussi, qu'il est là. Et ça fait longtemps qu'on dit que tout peut se faire, que la seule limite, c'est l'imagination.
365 jours par année, 24 heures par jour, on peut aller sur Zombo.com et là, tout d'un coup, on rentre dans une transe.
Ah, véritablement. Alors, on voit, en fait, dans le fond, d'utilité peut-être initialement loufoque. Au contraire, il y a là peut-être, à la limite, pourrait-on dire, la source vers une survie éventuelle de l'humanité, un désir de simplification, un désir de motivation, un désir de positif, de rire, de joie. On peut aller chercher des coups de drum pour des gags. On peut aller chercher Nelson qui fait son « ah ah ». On peut aller chercher des « la la la, la 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 ». Donc, tout est possible, véritablement, sur les sites à usage unique. Et je trouve ça extrêmement positif de voir, justement, cette tendance se développer, augmenter, s'intensifier au fil des années, surtout face à la complexification du web. Alors, c'est peut-être un atoll d'espoir au sein de cette planète qu'est Internet.
De simplicité, tout ça.
Et oui.
Moi, personnellement, mon propre coup de cœur de l'Internet à usage unique, c'est un site qui, je me souviens plus exactement du nom, je pense que c'est site.com, quelque chose comme ça, et il y a une photo de chien qui est debout, et là, il y a un gros bouton géant qui est marqué « Sit », donc « Assis-toi », et là, tu cliques dessus et il ne se passe absolument
oui,
rien.
Oui, il peut pas s'asseoir, c'est quelle surprise, quel humour, quelle finesse, décidément.
Incroyable.
Il y en a quand même aussi qui ont une utilité plus terre à terre, comme par exemple si on sait pas notre adresse IP, whatismyip.com, je crois. Mm-hmm. Parallèlement, si on sait pas si on est le seul à pas pouvoir accéder à un site, isitjustmeor isiteveryone.com, quelque chose du genre. Alors, il y a quand même des utilités peut-être un petit peu plus pratico-pratiques, mais on retiendra surtout l'esprit poétique de tout
moi,
ça.
Moi, j'aime mieux le site You Are Here. Et oui, on clique dessus.
Perdu.com.
Ah, c'est perdu.com, aussi. C'est en plein ça.
Ben, il y en a peut-être d'autres.
Et à ne pas mêler d'ailleurs avec islostarepeat.com qui nous dit si l'épisode de Lost de la semaine est une reprise ou non.
Ben, merci c'est beaucoup, docteur Raymond Poirier.
Ça me fait plaisir.
Excellent. On continue en musique, François.
Oui, donc c'était les grands phénomènes du web par docteur Raymond Poirier. On va aller écouter maintenant une pièce de Jack J. Marinovich. Et la pièce, ça va être Joujou. Vous êtes à puissance maximale.
Je n'ai pas de morceau à bouder, je ne me suis jamais cassé. J'ai 100 ans, j'ai jamais perdu de dents. Autre voisin là maintenant, je ne suis plus autant apprécié qu'avant. Seuls les connaisseurs connaissant la vie tragique et inventée de ce petit joujou qu'on a fabriqué. À Melbourne, ils voudraient m'avoir à leur bibliothèque. À Melbourne, pour croire qu'il y avait des tilutins. Été emballé, de mon corps personne n'a pu profiter. C'est dommage, c'est tellement malheureux que nul ne m'abusa même un tout petit peu. Avant que se termine brusquement ma carrière en divertissement, qui quoi qu'on en dise, rivistrement patate, personne ne se souvient d'un jouet qui fut aussi plate. À Melbourne, je voudrais me voir à leur bibliothèque. À Melbourne, faut croire qu'il y avait des petits lutins. Mais depuis ce temps, je n'ai pas quitté ma boîte. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé, je n'ai pas joué, je n'ai pas tenté de sortir de ma petite boîte. Mais on m'a quand même fondu avec d'autres métaux. Au recyclage, je me suis retrouvé un peu partout, avec des petits bouts et des morceaux de rococo.
Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et c'est maintenant le tour de Guillaume Forand de nous parler en direct de Puissance Maximale.
En direct du studio.
Du studio, ce fameux studio où tout peut se passer. Alors, Guillaume, aujourd'hui, de quoi nous parles-tu?
Je vais vous parler d'un jeu qui existe depuis quand même quelques temps, qui est le jeu DDO, ou Dungeons & Dragons Online.
Donc, c'est un jeu qu'on a sur Internet, accessible de façon gratuite, c'est bien ça?
Qui est maintenant rendu gratuit. C'est un jeu qui est sorti de base, qui était payant. Il fallait payer son abonnement par mois pour pouvoir accéder au jeu. C'est un jeu qui est fait par la compagnie Turbine, ou Turbine, si les gens préfèrent en français, qui, avec le temps, bon, le jeu était un petit peu moins populaire. Bon, il y a eu des litiges entre Turbine et d'autres compagnies alentour de ça qui n'avaient pas eu assez de promotion pour le jeu, tout ça. Finalement, ils ont décidé de changer la méthode du jeu. Donc, au lieu que de payer pour le jeu, ils rendent une partie du jeu gratuit. Entre autres, on peut commencer avec pouvoir faire deux personnages. On peut monter de niveau 1 à 4. C'est gratuit.
Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu achètes des bébelles pour monter plus haut.
Par contre, c'est ça. Par après, on peut, avec de la vraie argent, payer pour acheter des packages qui coûtent un certain nombre de points de jeu pour s'acheter, exemple, plus de points pour créer notre personnage, des aventures supplémentaires, le meilleur équipement, commencer niveau 4 pour en monter plus haut niveau. Par contre, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui va vouloir payer pour ça. Il y a possibilité dans le jeu en faisant des quêtes, donc en jouant, de pouvoir accumuler des points. Entre autres, moi, j'ai commencé à jouer la semaine passée. Je suis pas encore rendu tout à fait niveau 4 et j'ai pu m'acheter tout de suite le pack pour pouvoir monter jusqu'à niveau 8. Donc, on peut quand même acheter en jouant, en faisant des quêtes.
Ah oui, on peut tricher un peu en quelque sorte.
Mais c'est voulu. Même que juste le fait de savoir abonner, il nous donne un 25 points gratuit. On joue au jeu, il nous donne 25 points déjà en partant.
Okay.
Je me suis ramassé jusqu'à 100 points. Ça m'a coûté 50 pour pouvoir acheter niveau 5, 6, 7, 8. Donc, puis, qu'est-ce que j'ai eu comme information? La majorité de qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir jouer au jeu, une fois qu'on a monté un personnage jusqu'à peu près niveau 12, on peut acheter qu'est-ce qu'on a besoin de base sans être obligé de payer. C'est sûr, certain qu'il y a certaines choses comme des races spéciales, comme les Warforged ou les Elfes Noirs, les Drow, que faut payer pour. Ou la classe de moine, faut payer pour. Il y a des affaires qui coûtent plus cher, des affaires qui coûtent moins cher. Des bonus d'XP, des choses comme ça. Donc, il y a tout un magasin qui va avec. On peut même, en plein milieu d'une aventure, décider que ben là, j'aurais besoin de potions de guérison, j'en ai plus, je veux pas sortir du donjon parce que ça fait une heure qu'on est dedans. On peut aller directement acheter des potions de guérison.
Donc, avec, c'est une façon. Avec la vraie argent ou...
Avec la vraie argent. Ah, donc, ouais. Ben, la vraie argent, dans le fond, c'est qu'on achète des points.
Mm-hmm.
Et si on a assez de points, on a nos points, ils sont enlevés. Ou si on n'a pas de points, on peut acheter des points. Et à ce moment-là, avec ces points-là, on achète qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, c'est une façon gratuite, payante. De pouvoir faire financer le jeu. Qu'est-ce qui est quand même intéressant, même que dû au succès depuis qu'il est rendu gratuit, ils ont ajouté un nouveau serveur parce qu'ils ont vu la demande pour. Donc, mais, c'est déjà encourageant.
Mais dis-moi, un joueur qui ne paye pas du tout, là, est-ce qu'il peut se rendre au même niveau que les joueurs qui paient ou...
Selon ce que j'ai vu, parce que je ne me suis pas rendu encore assez loin, mais en lisant les forums, en posant des questions dans le jeu, normalement, oui, comme qu'ils disent, là, en rendant jusqu'à niveau 12 à peu près, on peut acheter tout ce qu'on a besoin pour pouvoir se monter un personnage jusqu'à niveau 20, de se rendre jusqu'au maximum des niveaux. On n'aura pas accès à toutes les races nécessairement, à tous les petits avantages supplémentaires, mais on va pouvoir augmenter notre personnage pour pouvoir jouer avec nos amis, il n'y aura pas de problème.
Et ça, okay. De façon gratuite.
Par contre, il y a certaines aventures ou séries d'aventures qui sortent que là, si on veut les avoir, c'est des Adventure Packs. Donc, on paye pour pouvoir faire ces aventures-là, qui est comme une mini-campagne à l'intérieur du jeu. Qu'est-ce qui est? Bon, c'est gratuit. Le jeu est gratuit. Il y a des heures de plaisir à avoir. Puis, on peut n'acheter plus à ce moment-là. C'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent de ce côté-là. Il y a même le nouveau jeu Dragon Age qui a l'équivalent aussi à intégrer dans le jeu. On peut acheter des aventures supplémentaires en payant certains frais à ce moment-là. Bon, ça, c'est la formule du jeu. Le jeu est ce qui est intéressant. Bon, c'est sûr, certains, il y en a qui vont dire ça, c'est du Donjon Dragon, c'est du déjà
oui,
vu.
Puis surtout qu'il y a déjà d'autres MMO qui s'apparentent beaucoup à ça.
Il y a d'autres MMO qui s'apparentent. Moi, pour avoir déjà joué lors du bêta, et j'ai recommencé à jouer depuis qu'il est rendu gratuit, il y a eu de l'évolution dans le jeu et oui, il y a le fun. Qu'est-ce qui est intéressant de ce jeu-là? Bon, on a une ville principale qui nous permet de voyager d'un coin à l'autre à la ville. C'est juste pour nous donner les quêtes, aller voir les marchands. Et chacun des donjons, des aventures, c'est des instances individuelles. Donc, on s'en va pas faire des instances comme on joue pas comme à la World of Warcraft ou Lord of the Rings, peu importe. On n'est pas tout le monde dans le même monde. On s'en va faire notre instance, notre aventure. Il y a des niveaux de difficulté qui vont de solo, normal, hard, elite, puis épique. Et plus qu'on augmente le niveau de difficulté, plus c'est difficile. L'avantage, par contre, c'est que si on a quelqu'un dans notre groupe qui se joint, il peut embarquer directement dans l'aventure. Donc, il n'y a aucun trouble là-dessus. Je commence l'aventure, c'est trop dur. J'ai un de mes copains qui se joint dans le jeu. Il me dit « Viens-t'en avec moi, on va aller faire l'aventure. » Il s'en va chercher la quête, il embarque dans la quête, puis on continue à deux. Qu'est-ce qui est quand même un bon point. Et les aventures varient de prendre 5 à 10 minutes jusqu'à une heure ou deux, ou peut-être même plus. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut ne pas être obligé de s'investir dans le jeu. On peut jouer une demi-heure un jour, on le met de côté pendant une semaine, puis on en revient après. Il est divertissant, c'est rapide, et c'est vraiment pour la qualité du produit, surtout que maintenant il est rendu gratuit. Moi, c'est sûr, certain, pour n'importe qui aime le genre de jeu où est-ce qu'on avance, on tue des monstres, on monte de niveau, il y a des mystères, des puzzles, dans le fond, qu'on peut résoudre à l'intérieur du jeu. C'est intéressant, c'est le fun. Moi, personnellement, je le recommande à tout le monde, même à vous deux d'essayer bientôt, si vous êtes disponible.
C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un jeu complètement Internet où je dois télécharger quelque chose sur mon ordinateur, par exemple?
C'est sûr, certain qu'il faut installer le jeu. Donc, il faut télécharger le jeu, il faut l'installer. Mais ou sinon, il n'y a pas rien d'autre. On part le jeu, ça prend deux minutes, on est rendu dedans, puis on est prêt à partir, là, faire nos affaires.
Sauf qu'évidemment, comme dans toutes les MMO, on va avoir le même problème, c'est-à-dire que si je veux embarquer puis jouer avec toi, ben moi je vais être niveau 1 puis toi tu vas être niveau 20.
Effectivement, il y a toujours possibilité de repartir des personnages. Les aventures s'ajustent légèrement selon les niveaux. Bien sûr, s'il y a une différence de niveau trop élevé, on pourra pas, ça va être débalancé quelque part, mais on peut quand même avoir quelques niveaux de différence puis s'amuser, ou on peut juste décider de partir des personnages qu'on joue une fois de temps en temps puis qu'on garde. Exemple, on sait que on monte pas plus haut que niveau 6. Puis quand on joue ensemble, là, on fait ces aventures-là.
Ouais, c'est ça, on peut s'entendre ensemble.
Puis on peut, tu sais, tu mets une heure le vendredi soir, de 9 à 10, on joue. On part pendant une heure de temps, on fait une aventure ou deux, puis après ça, on met le jeu de côté.
Est-ce que ça prend une machine assez puissante pour rouler ça?
Assez puissante, non. Je te dirais que moi, j'ai joué dans le temps, c'était avec un ordinateur, c'était avec...
Celui que tu pédales, là?
Presque. Au fait, c'est rendu mon vieil ordinateur qui roule tout croche. Mais avec un processeur 1 gig, 500 MB de RAM, ça fonctionne bien. Donc, ça prend pas... la majorité des ordinateurs de nos jours qui vont jouer sur Internet, ils vont être capables de le rouler déjà. Il n'y aura pas de problème. Ça prend un ordinateur qui date d'il y a quelques années. Puis on devrait être correct, là, à part si on avait vraiment dans le plus bas de gamme. Là.
Même au niveau carte graphique, j'imagine, là, comme c'est un jeu qui doit se jouer avec une vue aérienne, j'imagine, comme un MMO
Comme les MMO, c'est ça, comme le standard. Donc on a une vision reculée un peu.
Oui, c'est reculé à angle, donc ça doit pas être quelque chose qui...
Ça prend une carte vidéo, je dirais, rapidement même, c'est avec tout réserve, une carte vidéo 64 MB, ça va être suffisant pour jouer au jeu. C'est sûr, certain qu'on n'aura pas la meilleure qualité de graphique, ça peut laguer un peu. Ça fait partie du jeu aussi. Puis une particularité du jeu, qu'est-ce que moi je trouve intéressant, c'est un jeu où est-ce qu'il faut vraiment bouger. Donc si, exemple, au plafond, il y a des poteaux qui sont suspendus, qui tiennent le plafond, puis il faut aller les traverser, il faut nous autres même sauter. Fait que c'est un petit peu comme un RPG, un jeu d'aventure, un petit peu à la Mario Bros, d'une certaine façon, parce qu'il faut bouger.
Okay.
Faut sauter, on peut tomber en bas.
Ah oui. Donc il y a un côté action, arcade un peu, là.
C'est ça. On peut se noyer aussi, il faut nager. Donc quand on a une grosse armure sur le dos, on nage pas bien. Il y a certaines places où est-ce qu'il faut que j'enlève mon armure avant d'aller dans l'eau, parce que sinon j'ai pas assez de souffle pour me rendre jusqu'à l'autre bout. Et toutes les classes sont pratiques, sont utiles, certaines sont plus faciles. Et c'est comme les classes comme les voleurs qui sont spécialisés dans le crachetage de serrures, il y a certains trésors ou certaines pièces qu'on ne peut pas accéder si on ne les a pas. Mais n'importe quelle classe, en théorie, peut faire toutes les aventures, mais pas nécessairement avoir toutes les récompenses, par contre.
Bienvenue, une question un peu imbécile, mais en tout cas, c'est ça. Vas-y. Quand tu enlèves ton armure avant de nager, tu la mets où? Dans un coffre ou tu la mets dans ton pack-sac?
Tu la mets dans ton sac à dos et il compte à ton encombrement de poids.
Tout simplement.
Okay. Tout simplement.
C'est toujours le concept. Et tu peux toujours, évidemment, transporter avec toi des milliers de pièces d'or.
Mais c'est pas vite qu'on augmente ça à des pièces de platine, ça vaut 10 fois plus, donc. Mais non, effectivement, des milliers de pièces d'or, on achète des choses à 2-3 milliers de pièces d'or, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais c'est un jeu divertissant, faut pas se fier au réalisme. De toute façon, c'est basé sur un jeu de rôle. Du jeu de rôle, c'est toujours loin d'être du réaliste, c'est là pour s'amuser. C'est pas parfait comme jeu, mais toujours intéressant. Sur note sur 10, puisque le jeu est gratuit, moi j'y donne un 8, juste au fait qu'il est gratuit, qu'est-ce qu'on a avec le jeu? Et toutes les choses qu'on peut aller chercher juste en jouant de débloquer nous autres mêmes.
Excellent. En tout cas, on ira peut-être voir ça, puis on va peut-être se faire une petite guilde ensemble. Et
on pourra faire une guilde de puissance maximale.
Ouais, la guilde de puissance maximale sur le jeu. Excellent.
Donjons et Dragons en ligne.
En ligne.
Merci beaucoup, Guillaume.
À tout le monde.
Merci, Guillaume, d'être passé à l'émission. Et on continue en musique.
Moi, je te dirais, Guillaume, c'est vraiment un jeu que ça m'intéresse parce que de ce temps-ci, je suis tout le temps en train de jouer à mes vieux jeux PC. Là, je suis un petit peu tanné.
Moi aussi, les vieux jeux, on attend les extensions. Puis là, hop, je pars pendant une petite demi-heure, une petite heure, jouer à ça. Après ça, je mets ça de côté, je finis la quête et on repart à d'autres choses.
On va aller écouter maintenant une pièce de Alexis HK. Ça va être la pièce Gaspard. Vous êtes à puissance maximale.
Faisait rien de bien lumineux de la triste vie que son sort de petit lui avait gentiment offert. Il se décida donc à consacrer tous ses talents à l'envie de devenir le plus grand des nains volants. Et comme même en les contrées les plus civilisées, l'on pratique cet art qui consiste à propulser le nain sans trop d'éthique, le faire voler si haut qu'en définitive on obtient la gloire de celui qui fait le mieux voler les nains. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Il fit rencontre d'un taulier qui l'enrôla, et fut au lié par contrat au lancer de nains abusifs. Où certains soirs de calvaire on le lançait à plus de 18 mètres 10. Harnaché et le casque au crâne, on aimait bien de lui qu'il plane que sa dignité bien plus haut. Dignité pourtant moins précaire que celle de l'homme dont il s'avère qu'il aime à faire voltiger le napeau. Gaspard le nain volait si bien qu'il rejoignit sans trop tarder l'élite. Sa renommée devint jour après jour de moins en moins petite. Les dames se pâmaient, les hommes pariaient dans les coins. La victoire de Gaspard, le plus aérien des nains. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Riche à millions, le myrmidon dut pourtant un jour se voir enseigner le précepte de loi qui dit qu'il est interdit de donner son corps tel un objet et d'en tirer son gagne-pain, et que lancer le nain était outrage à l'être humain. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Comment toute fin fatale, Gaspard le nain était à l'agonie de ne plus pouvoir voler en public. Et pris le parti de partir vers l'au-delà dans un tout dernier saut mythique. Sans harnais, pas le casque au crâne, du haut de la corniche il plane et s'écrase dans les récifs. Et l'on entend parfois son âme entonner le chant de son drame en la complainte du nain mort en coulisses. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui pour se finir se lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Oyez sans rire, ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire, ni pleurer braves. pas le genre. L'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants.
Oui, vraiment.
Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
De retour à Puissance Maximale et en fin de semaine, samedi et dimanche, les 7 et 8 novembre, c'était la Fiesta Ludique à Montréal et messieurs et dames, parce qu'on a Killer Queen Anne qui est avec nous en studio présentement. Oh, elle est toute surprise.
Ça va pas bien.
Elle est venue elle aussi dire. À la Fiesta Ludique?
Non, elle n'est pas venue à la Fiesta Ludique, mais je voulais juste la saluer parce qu'elle est avec nous. Parce que je disais messieurs, mais il y a quand même une dame en studio, personne ne l'a entendu encore, mais je suis passé par la Fiesta Ludique samedi. Toute la journée et tout d'abord, super événement encore de Philosophia cette année. En soirée, là, au moment où j'ai quitté, il y avait plus de 500 personnes qui étaient entrées dans la journée. Et on parle là, du collège à Hansic. François, tu étais là l'année passée avec moi et c'était une salle seulement l'année passée qui était une salle quand même pas très grande, mais bon, correcte pour le jeu.
Bien rempli, à part de ça.
Bien rempli, mais là, il y avait deux salles. Une salle familiale, dans laquelle on avait des jeux pour les enfants, des jeux familiaux, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont allés dans cette salle-là.
Deux salles séparées.
Oui, la salle séparée. L'autre salle, c'était la salle régulière où on était l'année passée, mais vraiment pour le jeu de stratégie, le jeu plus... côté plus tranquille du jeu, en fin de compte, où les vrais joueurs s'adonnaient à leur passion préférée. Et bien, j'ai rencontré Martin Bouchard, qu'on salue également, Sophie Gravel, qui était présent. Et ça a été quand même une très belle journée. J'aurais aimé rencontrer beaucoup, beaucoup plus de gens au niveau du jeu, mais bon, ça roule une journée comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Beauseret. Je sais pas si vous connaissez le site internet soireeterrible.be. En fin de compte, c'est le www.soireeauplus. Trait d'union terrible, bien sûr, au pluriel, .be, sur lequel vous pouvez aller et vous retrouver ce qu'il appelle des boîtes casques, qui sont des podcasts, finalement, et sur lequel il fait des entrevues sur le monde du jeu. Il fait des petites critiques également, où, en fin de compte, il donne son opinion.
Il va montrer des jeux de plateau.
Il va les montrer également de façon vidéo. Et c'est quand même super bien fait, ce site-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas, qui travaille pas mal seul là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il est à Bruxelles. Et également, une fois par mois, de ce qu'il m'expliquait, ils ont des soirées, justement, les soirées terribles, où ils font des soirées de jeux. Alors, ça a été un entretien d'une dizaine de minutes vraiment sympathique, super intéressant, et on va écouter ça à l'instant. Alors, si vous écoutez Puissance Maximale, c'est sûrement parce que vous êtes des amateurs de jeux de toutes sortes. Et peut-être connaissez-vous le www.soiree-terrible.be, un site Internet sur le monde ludique. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Nicolas Beauseret. Monsieur Beauseret, merci d'avoir accepté cette entrevue avec Puissance Maximale.
Mais avec plaisir.
Tout d'abord, parlez-nous de Soirée Terrible. Est-ce seulement un site Internet ou parle-t-on également de vraies soirées de jeux?
Oui, en fait, l'idée, à la base, c'est une combinaison de deux envies très importantes par rapport au monde ludique. C'est que j'avais l'envie d'organiser des soirées jeux de société. Il s'est trouvé que l'endroit que j'ai trouvé, donc ça se trouve à Bruxelles, ça se passe à Bruxelles. Donc ce que j'ai trouvé comme endroit, c'est une brasserie qui s'appelle Les Enfants Terribles ou Aux Enfants Terribles. Donc d'un point de vue jeu de société, c'est très gai de ce que ça s'appelle Aux Enfants Terribles. Et puis comme c'était des soirées jeux, on s'est dit ça va s'appeler Les Soirées Terribles, ça tombe très très bien. Donc ça c'est devenu le nom du site internet. Et l'autre envie c'était d'avoir du podcasting francophone sur le jeu de société, parce que ce que j'entendais en version anglophone était pour moi très intéressant, et j'aimais le fait de pouvoir rouler à vélo, tondre sa pelouse, attendre le métro, avec en plus des informations intéressantes sur ce qui était ma passion, ce qui l'est toujours, donc le jeu de société. Et donc je me suis lancé, parce que j'avais un passé d'ingénieur du son, et je me suis dit je vais me lancer dans l'enregistrement et dans l'explication de ces choses-là. Et donc la combinaison des choses-là, on a fait ça d'une manière assez, j'ai fait ça d'une manière assez candide. On se dit je fais une soirée jeu, on va voir ce que ça donne, et puis je vais venir promener mon micro dans le monde du jeu, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là ça fait 2 ans et ça se passe bien, et je suis content de ce que ça donne. Je suis content aussi d'avoir un accueil très très chaleureux de la part du monde ludique. Je suis vraiment content de rencontrer plein de gens et que l'échange se fait, qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut pour essayer de comprendre ce que c'est le milieu ludique et ce que c'est qu'un jeu de société à l'heure actuelle. Et voilà, ça se passe très bien. Et en même temps, on partage le jeu de société avec des novices à travers nos soirées. Donc il y a une espèce de cycle comme ça qui s'installe. C'est bien.
Donc si je comprends bien, vous êtes le seul derrière les soirées terribles présentement?
Je ne suis pas le seul. En fait, je suis peut-être le seul celui qui travaille le plus, on va dire, parce qu'il y a le site internet, il y a l'organisation des soirées. On a évidemment on a Benoît qui m'accompagne dans beaucoup d'événements ludiques et qui est animateur aussi aux soirées terribles. Et puis il y a les amis par-ci par-là. Mais effectivement, bon, l'organisation technologique de la chose, c'est de mon côté, ouais.
Pour les gens de Québec qui nous écoutent et qui ne sont pas encore allés sur votre site Internet, qu'est-ce qui fait que votre site Internet se démarque de la concurrence? Là, on parle en Europe quand même d'une compétition qui est quand même là. On parle de Trick Track, on parle d'autres sites Internet du genre. Donc, qu'est-ce qui fait que votre site se démarque des autres?
Ouais, je sais pas si on peut parler de concurrent. Je crois qu'on est ici dans le milieu du jeu. On est plus dans une logique de partage. C'est peut-être très baba cool de dire ça, mais je pense que le jeu, comme bon, vous le disiez tout à l'heure offline, le jeu est en train d'exploser de votre côté depuis 5 ans à Québec. C'est une vraie explosion. Cette explosion, elle passe. Le fait de faire connaître le jeu de société au grand public passe par le partage et pas par la concurrence. Il y a énormément de magasins à Bruxelles qui ont compris que mettre les ressources et les connaissances en commun, c'est le moyen de partager et de faire venir les novices au jeu de société et de montrer ce que c'est le jeu de société. Parce que je crois que ça, c'est assez universel. Le jeu, même encore à l'heure actuelle, est considéré comme une espèce de. D'activité pour adolescents attardés. Quand on a dépassé la vingtaine ou la trentaine, quand on joue au jeu de société, c'est qu'on n'a pas réglé quelque chose dans sa tête. Et donc, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Et c'est peut-être que ça n'a jamais été vrai. Et l'explosion du jeu qui a lieu à l'heure actuelle va dans la volonté de démontrer que le jeu de société est un objet culturel au même titre qu'un tableau, qu'un livre. C'est une création d'un auteur. C'est pour ça que maintenant, le terme jeu d'auteur est en train de se développer de plus en plus. On parle de jeu d'auteur et beaucoup de gens se disent « Mais un jeu d'auteur, mais qu'est-ce que c'est ?» Bah, c'est un jeu où on se rend compte qu'il y a un être humain avec un cerveau qui était derrière, qui a créé quelque chose. Et c'est pas la contrepartie, c'est souvent ce qu'on voit avec des jeux de licence où finalement on reprend un jeu de parcours avec des cartes et des dés et on met le dernier film qui a bien marché dessus. Bah, ça, c'est les deux extrêmes. Évidemment, il y a tout le panel entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Tout l'effort qu'on fait d'informer et d'aller rencontrer les gens, combiné avec cet effort, l'effort. Ce même effort que les autres font fait que l'information sur le jeu évolue et que ça peut devenir, ça ne l'est pas encore, reconnu comme étant un objet culturel, quoi. Ouais.
Et le fait de travailler justement dans le monde ludique comme ça par passion, ça fait voyager dans un sens. On est au Québec présentement, sûrement en Allemagne il y a 2 semaines, j'imagine que vous êtes allé à Essen. Quels sont les grands événements que vous avez vus depuis 2 ans là, qui vous ont marqué au niveau du jeu?
Donc effectivement, il y a le salon de Essen qui est assez impressionnant, hein, il n'y a rien à faire, on est sur 150 000 m², plus de 50 000 visiteurs. Quand on arrive la première fois, on est assez estomaqué. Moi, je ne suis pas un gamer à la base, en fait, ça fait, je vais dire, ça fait 10 ans que je joue beaucoup, et puis il y a cette espèce de passion qui est montée. Il y avait l'effet, je ne peux pas rentrer dans un magasin de jeux sans sortir avec un jeu, hein, c'est devenu de plus en plus compulsif. Et puis on s'est dit, tiens, le salon de Essen, on ne connaissait pas très bien, et ça, en fait, c'est la 4e année que j'y allais cette année. Donc c'est quand même assez neuf. C'est peut-être ça qui fait aussi la candeur, quand je voulais, ou l'effet candide en disant je vais promener mon micro, finalement je connais pas bien le milieu. Donc Essen, c'est une vague, on rentre là-dedans et on se dit waouh, comme je disais, 44 000. Non, je me suis trompé dans les chiffres, c'est pas 150 000 m², c'est 150 000 visiteurs et 44 000 m². Donc 44 000 m², de jeux de société. Quand on parle de ça en Belgique, les gens vous regardent comme si vous étiez un peu fou. Ouais, pourquoi pas, mais bon, ça c'est important. Donc le salon de Essen, c'est quelque chose. L'autre salon qui est plus professionnel, c'est le salon de Nuremberg. C'est pas un salon ouvert au public. Là, vous avez l'équivalent. C'est pas Essen, c'est peut-être 3, 4 fois, 5 fois Essen, mais là c'est tout le jouet. Et dans le jouet, on retrouve le jeu de société. Là-dedans, il y a un petit palais. Et donc là, c'est plus des rendez-vous professionnels. On retrouve des auteurs, des éditeurs qui montrent leur jeu au reste du monde professionnel. Donc là, c'est vraiment mondial aussi. Et c'est peut-être plus agréable que le salon de Essen parce qu'il y a moyen de s'asseoir à une table et de jouer, ce qui est de moins en moins le cas à Essen, à moins de vraiment courir et d'aller absolument trouver la place qu'on veut et attendre de faire la file. Il faut faire la file à Essen pour jouer à un jeu. Donc voilà. Oui, en termes d'événements, bon, ben, il y a la Fiesta Ludique ici à Montréal, donc ça c'est la deuxième année, et c'est très très agréable de voir un événement comme ça, qui grandit, puisqu'ici il a doublé de taille, et de voir que le public est vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai passé mon micro de table en table, ben, je crois qu'une seule fois aurait suffi, parce que les arguments sont tous les mêmes. C'est bien, ça permet de rencontrer des jeux, ça permet de tester des jeux évidemment sans les acheter pour voir si ça nous plaît vraiment, ça permet de rencontrer des joueurs, ça devrait avoir lieu plus souvent. Et donc je reviens à la réponse que je faisais avant sur l'autre question, on est dans cette vague là, les joueurs potentiels comprennent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ça, et il faut continuer à travailler ça.
Et en terminant, quelle est la situation du jeu en Belgique au niveau de la création, au niveau de l'engouement qu'on a en Belgique au niveau du jeu, que ce soit le jeu de plateau ou peu importe le type?
Ben, il est comparable à ce qu'on peut retrouver en France, c'est-à-dire qu'il y a, bon, évidemment proportionnellement, la Belgique est vraiment beaucoup plus petite, mais il y a pas mal d'auteurs qui sortent, il y a pas mal d'auteurs qui sortent leur tête en disant ah, ben, moi aussi j'ai une idée, je crois qu'elle fonctionne. Il y a des éditeurs qui se lancent, évidemment c'est plus frileux parce que le marché est beaucoup plus petit, mais l'engouement elle-même, des soirées comme on fait les soirées terribles, bon, il y a la soirée du Schaff qui était donc ce qui était une institution en termes de jeux de société. Donc ça, c'est tous les jeudis. Nous, c'est tous les mois. Là, c'est tous les jeudis. Ben, ce genre, c'est aussi dans un café. Ben, ce concept-là s'élargit, devient de plus en plus présent dans différents cafés. On est en train de quitter, effectivement, le côté niche. Mais qui sont ces gens qui vont dans un café jouer à un jeu de société? Il y a plein de cafés, maintenant, de plus en plus vers le centre de Bruxelles, vraiment centre touristique, où il y a des soirées-jeux qui se développent. Voilà. Bon, maintenant, l'effet de bord, c'est comme le jeu est en explosion, il y a certains auteurs qui vont se lancer dans l'auto-édition avec le risque que ça représente, parce qu'ils ont vu que certains marchaient. Donc pourquoi pas moi? Ben, je crois que c'est aussi les maladies de jeunesse, parce que parfois c'était peut-être pas le bon moment, c'est peut-être il fallait peut-être continuer à développer son jeu, ce genre de choses-là. Mais ça, je crois que ça devient assez mondial, c'est-à-dire qu'on voit que le jeu explose et on se dit tiens, j'ai pas réussi à avoir un éditeur, donc je m'auto-édite. Ça, c'est peut-être l'effet de bord un peu négatif de cette explosion. Donc je crois que la maturité viendra avec le reste. Mais voilà, donc le Belgique, France, Hollande, je crois que ce milieu-là est assez aligné sur l'explosion, ouais.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Beauseret, pour cet entretien. C'était très agréable et au plaisir de se recroiser peut-être en Europe dans quelques temps.
Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas une soirée terrible, qui sait?
On pourrait y aller, oui. Puissance maximale pour être sur place. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance maximale.
Et c'est maintenant le temps de l'actualité ludique de la semaine et on commence avec François.
Le nouveau Call of Duty promet. Alors évidemment, on peut pas passer à côté. Le divertissement le plus populaire du temps des fêtes risque d'être le nouveau volet d'une série contenant évidemment des scènes de guerre, parce que Call of Duty, on se rappelle, c'est essentiellement
un jeu de guerre et un jeu de tir à la première personne dans lequel on fonce dans le tas. Pas trop de stratégie, à part de se cacher quelquefois.
Et c'est toujours la Deuxième Guerre mondiale.
Hein. Pas tout le temps. En fin de compte, le Warfare, celui qui va sortir, c'est le... c'est contemporain. C'est vraiment, là, on parlait dans le premier volet, on parlait d'Irak, on parlait de vraiment, là, on touchait au monde plutôt arabe. Et c'était assez impressionnant comme jeu. J'imagine que ça va être... quelque chose, ce jeu-là.
Le nouveau, justement, Call of Duty Modern Warfare 2 va être lancé par Activision Blizzard demain. Et ça risque de battre les records des jeux précédents de la série. Et ça permet... c'est possible aussi que les recettes vont rejoindre, justement, Grand Theft Auto 4. Donc, un gros joueur, là, si ça réussit à se faire chapeau.
Moi, j'en doute pas. Je suis certain que ça va être des ventes records.
Le jeu est déconseillé au moins de 17 ans. C'est un jeu assez mature. Il y a beaucoup de guerre.
On imagine qu'il n'y a pas un parent qui va acheter ce jeu-là à ses enfants de moins de 17 ans, voyons.
Non. Et là, j'ai une primeur. On risque d'avoir des copies de ce jeu-là pour le Warp Zone. Ouh. Événement qu'on organise bientôt.
Oui.
On va en parler un peu plus tout à l'heure.
C'est ça.
Et aussi dans les nouveautés qui a sorti récemment, il y a le jeu Dragon Age, un RPG fait par la même compagnie qui a fait dans le temps, dans le fond, par les mêmes producteurs que les Baldur's Gate. Donc un nouveau RPG qui est sorti à la même style que Baldur's Gate, un petit peu la Diablo où est-ce qu'on avance, avec une histoire très très évoluée, avec des choix à faire, des multiples quêtes, des personnages à monter, à équiper correctement. Donc pour tout amateur de RPG, je crois que ça va être un bon choix là, pour les gens, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose de très très impressionnant, je dirais, dans les dernières années. Il y a eu des choses quand même, mais celui-là a eu de très très bonnes, très très bons commentaires dessus.
Dans le milieu des jeux de rôle, et on parle d'un jeu évidemment que c'est pas les graphiques qui vont tout casser, c'est vraiment l'histoire.
Les graphiques sont beaux aussi en plus, okay. Des très bons graphiques et avec une histoire très évoluée qui certaines personnes vont peut-être moins accrocher à cause de ça, mais c'est un gros plus pour tout amateur de RPG. Ça vaut la peine d'aller chercher ce jeu-là.
Sinon, eh bien, justement, on en a parlé tout à l'heure. Jeudi prochain, il va avoir lieu le Warp Zone. Donc, voilà, c'est un événement qui est organisé par Puissance Maximale. En fait, c'est une triforce.
Oui, mais jeudi prochain, François, quand tu dis jeudi prochain, c'est jeudi qui s'en vient, là, dans trois jours.
Exactement.
Jeudi cette semaine.
Oui.
Donc, c'est en compagnie de La Planque Jeux Vidéo, Puissance Maximale et le Studio P, c'est-à-dire la Librairie Pantoute. Et donc, c'est le 12 novembre. Voilà la date que j'ai trouvée sur ma feuille. Et donc, c'est une soirée pour les jeunes et moins jeunes. Ça va être on va célébrer le bonheur de jouer à des jeux de vidéo rétro.
Les bons vieux jeux rétro.
Il va y avoir une conférence sur pourquoi E.T. The Extraterrestrial n'est pas le pire jeu de tous les temps, parce que c'est un jeu qui a été passablement varlopé sur
certain.
YouTube.
Effectivement, j'ai jamais réussi à rien faire dans
une fois,
ce
une
jeu-là.
Fois qu'on tombait dans le trou, on était fini. Là,
écoute, on tombait toujours dans le trou, il y a quelqu'un qui nous pognait.
Mathieu Lemire va vous convaincre que c'est un excellent jeu, finalement. Après ça, il va y avoir un bar, évidemment, parce qu'il n'y aura pas juste du coke, mais il va y avoir de la liqueur, comme dans le sous-sol de nos parents. Il va peut-être même avoir des meubles, des sofas un peu miteux.
Va-t-il y avoir du Mountain Dew?
Je sais pas, je ne peux pas dire.
C'est une excellente question, c'est encore disponible du Mountain Dew?
Mais il va avoir des liqueurs de la même couleur que le Mountain Dew.
Celle-là en bouteille là, que tu décapsulais. Là.
C'est ça, exactement.
Comme vieille, là, comme chez grand-maman ou chez grand-papa dans le temps.
Exactement. Alors, celle qu'on regardait les bouteilles, puis il ramassait, puis il lavait, puis il en donnait d'autres. Et
mais
tout
là,
ça.
Là, il faut absolument avoir une TV Quasar en bois. Là.
Je te garantis qu'il va en avoir une, mais pas en bois, mais en plastique, j'en ai une, avec okay. Un beau botch de cigarette dedans.
La Quasar en bois s'arrêtait. Exceptionnel.
Ça se peut qu'on ait des télés encastrées. Je vous promets rien. Le Warp Zone, on va travailler là-dessus. On va avoir plusieurs autres choses, comme par exemple, on va avoir à partir de minuit, bon, c'est un jeudi, mais quand même, pour les courageux qui vont rester jusqu'à minuit, jusqu'à 3h du matin, ils vont avoir des diffusions de courts-métrages d'Angry Video Game Nerd. Donc, le gars qui s'amuse à varloper tous les jeux rétro qui existent de sur la Terre. Et ça va être aussi l'occasion, le Warp Zone du jeudi, d'essayer toutes les bébelles qu'on a toujours entendu parler, mais qu'on n'a jamais essayé, comme
le Power Glove.
Exactement, là, c'est quelque chose
d'assez rare.
Un gadget très rare. Donc, c'est le premier, on se rappelle, c'est le premier contrôleur qu'on pouvait détecter le mouvement humain, en quelque sorte. Ouais, là. Bon, c'était très prototypique, là, c'était très nul aussi. Développé en 1989, mais depuis ce temps-là, c'est perdu dans la brume, il n'y a personne qui a jamais vu ça en personne. On va voir le Dance Aerobics. Qui est en fait un tapis de danse.
Qui était aussi pour les jeux de track and field, je ne me trompe pas, qui était utilisable.
Je pense que
pour...
oui, il me semble que c'était utilisable.
Pour quel jeu?
Track and field.
Le jeu de course et
décathlon.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a des jeux de. On fait du sport. C'est
quelques heures.
C'était un peu poche aussi.
Des choses qu'on avait, oubliées. Hein.
C'est
assez
comme l'ancêtre du Wii Fit.
Ben oui, c'est ça.
C'était ça, c'était le Wii Fit.
Tout le monde était impressionné par le Dance Revolution, le tapis de danse, le Wii Fit. Puis on avait ça, puis on avait oublié que c'était sorti à la fin des années 80.
On va voir aussi le Super Scope 6. C'était un accessoire pour le Super Nintendo qui était en forme de bazooka. Ça, je me rappelle d'avoir touché à ça quand j'étais petit. On va voir des consoles Atari, Nintendo, Telstar, Super NES, TurboGrafx-16, Sega Saturn, Gemini, Intellivision.
Est-ce qu'on va avoir le fameux robot de Nintendo? C'est pas sûr, hein?
C'est dur à trouver, ça.
Oui, en tout cas, un fonctionnel, puis un avec toutes les pièces. Là, c'est ça, pas
il y a moyen d'en avoir un brisé. Là. Fonctionnel, c'est plus difficile.
Pas grand-chose.
Comment est-ce qu'il s'appelle? Le robot?
C'était pas Rob?
Rob, voilà.
C'était Rob. Entre autres, il est retrouvé dans les jeux de Mario Kart, un des personnages que je pense qu'on peut jouer le robot.
Ah oui, donc. Donc voilà, ça va être toutes ces belles choses-là qu'on va pouvoir trouver au Warp Zone jeudi le 12 novembre au Studio P. C'est sur la rue Saint-Joseph. Vous avez juste à joindre à l'événement Facebook. Ça coûte un gros 2$.
Ça vaut la peine de se rendre pour s'amuser vraiment ce jeudi. Alors, c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. 9 novembre, et on salue les gens qui sont passés. Donc, on salue Raymond Poirier pour sa chronique. Guillaume Forin, merci beaucoup.
Merci.
On salue également notre ami belge, Nicolas Beauseret, qui est en entrevue lors de la Fiesta ludique. Et on remercie Killer Queen Anne, qui est là, qui nous fait, en fait, plaisir de sa présence. C'est vraiment plaisant de t'avoir, et merci d'avoir parlé à l'émission aujourd'hui, Anne.
Et, et si tu n'as plus d'air dans tes pneus de voiture, c'est normal.
Ah, peut-être, oui. Ça se peut-tu? Ah, elle vient de sortir son canif. François G. Couillard à la console, c'est le cœur de Puissance Maximale. Merci, François,
d'être là. Merci à toi, Vincent. Félicitations pour ton bon partage.
Eh bien, merci beaucoup, c'est bien gentil. Alors, comme à l'habitude, c'est même le temps de se quitter et on se dit bonne semaine. It's the time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the ending. Fighting with the legends of yore. It's the ending. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right, take it home. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend. It's